Chapitre 4e. La grande Bobèche, la petite souris, Mouron pour les petits oiseaux et l'embaumée étaient fort distraites à l'atelier de peinture. Assises sur de hauts tabourets, devant une table chargée de petits pots à couleurs, le coude droit appuyé sur un support en bois, elles promenaient maladroitement leurs pinceaux sur les têtes de kaolin qu'elles tenaient de la main gauche. Après le bavardage accoutumé sur les types aperçus la veille en omnibus, les petites amies se mettaient chaque jour vaillamment à la besogne, l'embaumée troussant les lèvres d'une touche de carmin, la petite souris dessinant des cils en auréole autour des prunelles, la grande Bobèche enjolivant de mignonnes fossettes faites en trompe-l'œil, les joues de marmot largement lavées de rose par Mouron pour les petits oiseaux, le buste corseté d'une blouse bleue maculée de rouge et de brun, effilant le bout des pinceaux entre leurs lèvres devenues plus roses, elles s'appliquaient, la langue un peu tirée, le visage penché sur l'épaule, en des attitudes de contemplation. Les poupées qu'elles animaient ainsi d'une couleur de vie étaient aussi irréprochablement peintes que les grandes poupées qui se fardent elles-mêmes. Les petites têtes avaient une individualité, un air à elles, qui surprenait même M. Gosselet. Il disait au contremaître : « Ça se croit des artistes et elle ferait des portraits, ma parole. » Le contremaître, un vieux, venu d'Auvergne, comme le patron, maugréait : « Très bien, mais nous voulons des têtes de bébé et non des pastels de cocotte. Regardez-moi ses yeux. » « Laisse donc faire, mon vieux Firmin. Ça se vend, c'est parisien, c'est parisien. Tu seras toujours de Saint-Flour, mon pauvre vieux. » Le vieux Firmin, ce matin-là, n'eut pas de peine à remarquer que les têtes enluminées par les quatre petites amies ressemblaient aux frimousses venues des autres tablées, comme les masques de carnaval ressemblent aux figures de cire posant à la devanture des coiffeurs. Tous les bébés barbouillés par la grande Bobèche, petite souris, Mouron pour les petits oiseaux et l'embaumé faisaient la grimace, fronçaient les sourcils ou saignaient du nez. « Ah, ça, mesdemoiselles, c'est de la belle ouvrage. Recommencez-moi ces horreurs !» Et les petites ouvrières s'appliquaient, rouges sous leurs casques de cheveux. Cela ne durait guère, et les caquetages recommençaient, en un rapprochement de frisons, pendant que les pinceaux allaient à la monture, encerclant l'œil gauche de cils bruns, étoilant l'œil droit de cils blonds. Alors, il t'a dit, chuchotait la grande Bobèche, une grande à figure osseuse sous une mousse de poils rouges, et la petite souris, toute petitote, avec des prunelles tachées au milieu comme par deux gouttes de café, et Mouron pour les petits oiseaux, d'une joliesse maladive, les lèvres pâles avancées en bec de pierrot, se penchait vers l'embaumé. Il m'a dit, mais vous êtes des bavardes. Oh, ma petite embaumée, dis-nous pourquoi M. Bamberg. Tais-toi, Mouron. Le vieux Firmin va nous attraper. Et puis, Mouron, que t'importe que M. Bamberg me dise ceci ou cela? Tu es amoureuse de lui, hein? Moi, si on peut dire. C'est toi qui es amoureuse, l'embaumée. Tu vas chiper le lilas du père Gosselet pour lui faire des bouquets que tu mets sur sa table pendant le déjeuner. Je t'ai vu, l'embaumée, je t'ai vu. Mademoiselle, je n'aime pas ces plaisanteries. Il y a toujours un tas de vieux derrière vous. Avec vos yeux de Sainte-Nitouche. Mademoiselle, je vous défends. Rendez-moi ma boîte à poudre. D'ailleurs, je suis assez droite pour que les hommes me suivent. Tandis que les mômes vous crient dans le dos. Hé, la boscotte. L'embaumé, d'un coup de pinceau, balafra de rouge la frimousse pâle de Mouron pour les petits oiseaux, qui laissa rouler à terre la tête du bébé qu'elle enluminait, pendant que le vieux Firmin criait du bout de l'atelier. Hé, mesdemoiselles, 50 centimes d'amende pour la casse, et du silence ou à la caisse. Des rires sonnèrent à toutes les tablées. Et rouge, rouge, un peu d'eau sur leurs cils baissés, hochant la tête, les deux petites ouvrières promenèrent leurs pinceaux rageusement sur les faces de kaolin. La grande Bobèche riait de la querelle. Petite souris, elle, lorgnait en dessous les deux rivales, craignant quelque orion, quelques coups de griffe égarés. Puis, après un silence qui apaisa la grande colère des deux voisines de tabouret, « Voyons, ma petite l'embaumée, raconte-nous ce qu'il t'a dit, Mouron est agaçante. » L'embaumée, le buste courbé montrant sa bosse qui bombait son jersey comme un gros tampon d'ouate amoncelé sous la doublure, l'embaumée essuya du bout du doigt une larme qui allait choir et dit, résigné, « Ma bosse, je sais que je ne suis pas belle, mais quand on est camarade, on ne devrait pas se reprocher des infirmités. J'aurais voulu vivre toute seule, sans personne pour me faire souffrir. Mouron a voulu être mon ami. Elle avait bien vu ma bosse quand elle m'a demandé de demeurer avec moi à Montrouge. » Attendrie, la grande bobèche et petite souris approuvèrent. Mouron est méchante comme la gale. Et Mouron se mit à pleurer dans ses deux menottes, pendant que l'embaumée la poussait du coude, toute consolée déjà, disant à mi-voix « Voyons, Ronron, tu ne l'as pas fait exprès pour me faire du chagrin, je le sais bien. »«
Attention, voilà M. Bamberg, » dit la grande bobèche.
André Bamberg traversa l'atelier, la tête basse, semblant rêveur. Il revient sur ses pas, rôde autour des petites amies, s'arrête derrière l'embaumée devenue pourpre et dit assez haut pour ne pas paraître faire une confidence. « Ainsi, c'est entendu, mademoiselle, vous voudrez bien passer à mon bureau à midi ?»
Sans lever les yeux, le pinceau maladroit, en ses doigts tremblants, l'embaumé répond « Oui, monsieur. » Les petites amies, les yeux allumés de curiosité, se penchant de nouveau vers la petite bossue.
« Alors il t'a dit, pourquoi faire à son bureau ?»
L'embaumé avoue très vite pour être délivré des sottes questions qui l'obsèdent et font sursauter vite le bouquet de violettes épinglé à son corsage.
« Monsieur Bamberg veut me parler de je ne sais quoi. »«
Ah, de je ne sais quoi, » riposte la grande bobèche.
« Moi, je me suis toujours défié du petit Bamberg.
Les hommes qui se frottent aux robes des femmes, sans que ça leur fasse rien, m'épouvantent. Ils veulent avoir l'air en bois, et puis crac, ça flambe et ça vous prend, parfois, malgré vous. Vous connaissez Berthe de chez Pachard, à Saint-Mandé. »
Le patron l'appelle un jour, pendant le déjeuner des ouvrières.
« Ma petite, » qu'il lui fait, « si vous êtes bien gentille, je vous augmenterai. » Comme elle ne voulait pas être bien gentille, il lui fit comprendre que l'usine n'avait guère de commandes que, ce qu'ils disent tous, enfin, Berthe sait peindre les sourcils sur des têtes de poupées, mais elle ne sait que ça. Alors, elle fut bien gentille.
« Ça, c'est sale, mais ça se fait. Moi, à ta place, l'embaumé, je n'irai pas. »«
Toi, » dit Mouron, « tu es jalouse. »«
Oh, jalouse, le petit Bamberg, ce n'est pas mon genre. »«
Moi, je n'aime que les hommes qui portent l'orgnon. » qui ont 6 pieds de haut et des cheveux frisés. Le petit Bamberg est un bel homme, mais il a des cheveux plats, de grands yeux bleus qui ont l'air morts, et il porte des cols droits. J'aime avoir le cou des gens, moi. Puis, il a deux coins de moustache si petits qu'il a dû pleurer pour les avoir.
Si ce n'est pas ton genre, dit Petite Souris, c'est que tu as des goûts communs. Il a l'air distingué.
Et très bon, ajouta Mouron.
Puis, tu n'as pas remarqué ses mains avec des ongles tout petits?
Soit, dit la grande bobèche, pour ce que je vais en faire.
Mais l'embaumé ne nous donne pas son avis.
Je n'ai rien à répondre, la grande bobèche. Ce que tu dis est si bête.
À ton aise, ma petite, tu feras comme les autres. Mais je ne te conseille pas de venir pleurnicher ensuite dans mon tablier. Tu es prévenu.
Délicieusement ému, le cœur battant à coups précipités et soulevant le bouquet de violettes sur son corsage, l'embaumé songeait.
Que me veut-il?
Certes. Elle n'avait point peur d'une accolade brusque dans le petit cabinet vitré au milieu de l'usine déserte. Elle se sentait protégée par sa bosse contre le désir des hommes. Lui, si beau, devait-il pouvoir se lasser de maîtresse qui n'était pas contrefaite? Que veut-il me dire? Avait-il deviné qu'elle l'aimait de très loin, de très bas, sans oser se l'avouer, s'efforçant de cacher son amour honteux comme elle s'ingéniait, toute petite fille, à dissimuler son infirmité? Comment avait-elle osé l'aimer? Elle se souvenait de l'arrivée du jeune homme à l'usine, du mot qu'il lui avait dit un jour. « Mademoiselle, vous devez être bien heureuse de faire sourire tant de petites bouches. » Depuis, il l'avait gourmandée tout aussi fort que les autres ouvrières, signalant rigoureusement au contremaître qui tenait le livre de paye ses retards du matin. Elle l'avait aimé à son insu, peu à peu, heureuse de voir ses yeux, heureuse d'entendre sa voix, honteuse quand il s'arrêtait derrière elle à l'atelier et pouvait remarquer la bosse. La malencontreuse bosse. Il n'avait rien fait pour être celui dont on prononce le nom tout bas en une vaine caresse des lèvres, mais quand tous, connus et inconnus, témoignaient à la pauvre fille, par des sarcasmes ou de bonnes paroles attendries, qu'ils s'apercevaient de son infirmité et triomphaient, eux, d'être droits, lui n'avait rien dit. Oh, l'excellent cœur! Elle l'avait aimé par besoin d'aimer. Les fleurs qu'elle baisait le matin se fanait le soir. Être aimé d'une bosse-côte, cela ne pouvait l'humilier puisqu'il ne le saurait jamais. Une autre le prendrait, une autre qui ne serait pas contrefaite, mais elle serait si heureuse de souffrir, sa souffrance venant de l'aimer. Elle avait été imprudente la veille en déposant sur sa table une branche de lilas chipée au père Gosselet. Quel rire dans l'usine si les ouvrières apprenaient que l'embaumée était amoureuse de M. Bamberg.
Comment, la Boscotte ?
Oui, ma chère, elle ne doute de rien.
Amoureuse et bossue, elle n'oserait plus sortir de sa chambre de Montrouge.
Pourvu qu'il ne devine pas, murmura-t-elle.
Et profitant d'une causerie qui rapprochait les frisons de ses camarades de tablé, elle mit un peu de rose au coin de son mouchoir et se fardait les joues furtivement pour être moins pâle quand il lui dirait « Mademoiselle, je vous aime. »
« Non, mais, mademoiselle, je... »
Que pouvait lui dire M. Bamberg ? Peut-être avait-il deviné. André Bamberg, assis en son bureau de la machinerie, enjolivait de fioritures les initiales MG qu'il avait dessinées sur une feuille de papier blanc. Cet exercice, tout machinal, et qui n'était d'aucune utilité à la fabrique Gosselet, aidait le jeune ingénieur à ne point trop témoigner d'impatience et de nervosité. André Bamberg avait résolu de prendre une décision à midi sonnant. L'honnête homme et l'amoureux s'étaient querellés en lui pendant toute la matinée, et il s'efforçait de ne songer à rien jusqu'à l'heure où il se prononcerait sur son sort. Peut-être sacrifierait-il à Simone tous ses scrupules, elle l'aimait tant. Les bruissements de cette usine, point tapageuse comme les autres usines, les chuchotements entendus autour des bébés nouveau-nés, comme en une chambre d'accoucher, lui rappelèrent ses débuts dans la maison Gosselet. Né en Suisse, dans une de ces auberges proprettes, où ne descendent plus guère que les gens du pays et les étrangers qui voyagent en artistes, il avait suivi les cours de l'école polytechnique de Zurich, puis, son brevet d'ingénieur en poche, il était venu en France à la conquête d'une position sociale. Pendant 3 mois, il avait heurté vainement à toutes les portes d'industriels grands et petits, quand un ami le présenta au fabricant de poupées. Son entrée en fonction avait été modeste. Un homme pratique qui se défie de la science apprise en des livres, M. Gosselet lui avait fait étudier tous les petits détails de la fabrication des bébés. Cela l'avait amusé d'abord, puis intéressé, et il gardait bon souvenir du temps où ouvrier et ouvrière le gourmandaient, malgré son titre, quand il gâchait du carton ou des fils d'archal. Devenu bon ouvrier, et connaissant tous les procédés, tous les secrets du métier, il s'était ingénié à rendre plus anatomiquement vrai l'organisme des petits êtres en carton. Le bébé moderne n'a plus de son dans le ventre. Il se compose de diverses parties en carton creux reliées entre elles par des ressorts et des bouts de caoutchouc formant un appareil dont toutes les ficelles se rattachent à un crochet qu'est le cœur. Il peut mouvoir ses petits yeux de verre à droite et à gauche pour dire bonjour aux petits amis de maman ou les baisser sous la paupière inférieure pour laisser croire qu'il dort bien sage. Dans la première partie de la fabrication, qui consiste à créer les parties d'armure en carton que l'on réunit pour former un corps, Bamberg fit une découverte importante. Il imagina de remplacer les petites menottes fragiles par des mains incassables. Il composa une pâte argileuse qu'il pressura et moula en une machine de son invention. Dès lors, les bébés Gosselet promenèrent de par le monde de jolis petits doigts délicatement incurvés, résistant à tous les heurts. Cela lui valut les bonnes grâces du patron et l'emploi d'ingénieur constructeur. Brusquement poussé par le désir de voir ce qu'il allait quitter, Bamberg se leva et se mit à errer à travers les ateliers. Au moulage, une nouvelle création put le distraire un instant de ses préoccupations. Le corps, les jambes et les bras des bébés sont fabriqués économiquement en feuilles de carton moulées dans des matrices en fonte de formats différents, mais la confection des têtes en kaolin exige une main-d'œuvre plus minutieuse. La pâte liquide est versée en des moules en plâtre, qui ne peuvent guère servir plus d'une 20aine de fois, sans se couvrir de petites granulations qui marqueraient le visage des bébés des cicatrices de la petite vérole. La tête moulée est confiée ensuite à des ouvrières qui, manipulant délicatement la croûte fragile, font avec un canif la toilette des lèvres entrouvertes et des petits nez. Or, depuis la veille, la maison fabriquait des poupées rieuses. Les polisseuses creusaient des alvéoles sous la lèvre supérieure des bébés et plantaient une rangée de quenottes en émail à peine aussi grosses que des grains de riz. Très artistes, les petites ouvrières s'acquittaient de leurs tâches à merveille. Passant près du four où les petites têtes cuisent à une température de 8 à 1200 degrés, André Bamberg entra dans l'atelier des peintres pour corps qui sont aux peintres pour têtes ce que sont les barbouilleurs en bâtiment auprès des grands prix de Rome. Entièrement vêtus de blanc, comme en chemise,
30 ou 40 jeunes filles plongeaient les bébés dans un bain de rouge ou de rose et les fixaient ensuite à la muraille hérissée de longs piquets. Les petits corps nus séchaient là, empalés. Bamberg parcourut ensuite les salles de réserve, désertes, où s'entassaient des bras et des jambes en carton, semblables à d'immenses ossuaires, et il fit son entrée dans le salon de coiffure. Là, les petites ouvrières jacassaient, un vice de profession, tout en épinglant des perruques sur les petites têtes d'abord coiffées de calottes de liège. Elles frisaient au petit fer ou tressaient des nattes, couchant leurs clientes sur de grandes tables encombrées de laine fine ou de vraies chevelures achetées aux Creusoises ou aux Bretonnes pour quelques mètres de satinette. Rêvassant, ils s'arrêtaient devant les faiseuses d'yeux, penchés, très pâles, sur la flamme du gaz qui leur servait de foyer pour fondre les bâtons de verre de différentes couleurs, en cornets et prunelles striées de jaune. La confection des petits souliers mordorés, portant sous la semelle la marque Gosselet, sembla l'intéresser comme une chose qu'il voyait pour la première fois. Toc, un coup de balancier, l'empeigne. Toc, un coup de balancier, la semelle. Deux tours de roue d'une machine à piquer et la chaussure à pointe, à la mode, étaient aussi gracieuses que les bottines de fée mises à l'étalage sur le boulevard. Dans un autre atelier, 50 lingères et confectionneuses recevaient des hôtées de bébés qu'elles empilaient tout nues sur de grandes tables et habillaient ensuite de chemisettes fleuries de bouquets bleus. Midi sonna. Les étoffes froissées, les babillages, les chaises remuées lui rappelèrent que l'embaumé devait l'attendre en son cabinet de la machinerie. Debout, les cheveux tapotés en hâte, mais frisotant à la diable, trop rose, les yeux noirs mouillés, le buste redressé comme pour offrir à l'aimé le bouquet de violettes épinglé au corsage. L'embaumé attendait, gentil sous sa petite capote de fausse loutre. Il entra vite, ferma l'œil vitré, sourit. « J'ai un service à vous demander, mademoiselle. »« Ah, j'en suis bien heureuse, monsieur Bamberg. »« Allez à Paris et prenez, place de la Bastille, un fiacre que vous ramènerez ici près de la grille du parc où il attendra. Tenez, voilà 20 francs pour que le cocher prenne patience. »« Mais, monsieur Bamberg, le cocher s'embêtera et s'en ira avec vos 20 francs. »« C'est juste. Venez me prévenir de l'arrivée du fiacre et je parlerai au cocher. »« Vous êtes toute gentille, mademoiselle, et merci. » Puis, hésitant, « Vous ne direz rien à vos amis, n'est-ce pas ? Rien. Merci. »